Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Cube Radio. Vous l'avez vu? Vous l'avez lu? Maintenant, entendez-le. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer, le guide de l'auto. Cube Radio.
Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'auto, édition du 6 juin 2020. On est rendu à l'été, mon cher Germain.
C'est officiel.
C'est pas mal officiel. Et là, on a vu les chiffres de vente de mai sortir.
Pour le Québec.
Pour le Québec, pour le Canada aussi. Bon, évidemment, les constructeurs ont comme moins envoyé de communiquer à ce sujet-là.
C'est drôle, hein? Ma boîte de courriel, normalement, la première journée du mois est toujours bien remplie. Et soudainement, il y en avait moins.
Particulièrement chez Mitsubishi, et moi, je ne sais pas pourquoi, moi, en ce qui me concerne, Mitsubishi et Ford, je reçois toujours une demi-douzaine de communiqués le premier du mois pour les ventes. Et là, j'ai rien reçu.
Pareil, chez Infiniti et Nissan.
Nissan. Et particulièrement, Nissan n'a pas envoyé ces chiffres-là. Et ça m'amène à dire que Nissan est le constructeur, écoutez bien ça, qui a subi la plus grosse baisse de vente en mai par rapport à l'année passée. Faut quand même souligner que les concessionnaires en dehors de la grande région de Montréal étaient ouverts dès le 8 mai. Et dans la grande région de Montréal, ça a été plutôt autour du 25. Mais il y a quand même des véhicules qui se sont vendus au mois de mai au Québec. Et chez Nissan, c'est moins 64%. C'est 64% de baisse de vente par rapport à mai de l'année passée, ce qui est énorme. Et du côté de chez Mazda, on est autour de 40. Il y a beaucoup de constructeurs automobiles qui se situent dans le 35, 40, 45. Et Kia, c'est totalement étonnant. On recevra d'ailleurs en deuxième partie d'émission Pascal Lapierre, qui est directeur régional pour Kia Canada, qui va nous expliquer un peu comment ça se fait qu'on a subi qu'une baisse de seulement 8% au Québec.
C'est exceptionnel.
Moi honnêtement, je trouve ça impressionnant et c'est pour ça que j'ai voulu le recevoir. Parce que Kia est une compagnie qui est en ascension au Québec depuis un an, mais avant ça, on avait un petit peu de la misère à tenir le cap. Les ventes étaient en baisse depuis 2-3 ans. Là, bon, il y a deux produits qui ont aidé beaucoup, évidemment, récemment, c'est le Telluride et le Seltos qui vient d'arriver.
Oh oui, mais c'est pas le seul constructeur qui est débarqué dans la dernière année avec des produits intéressants.
Non, c'est
plus,
ça.
Là,
fait que c'est tout un exploit en ce qui me concerne. Seulement 8% de baisse de vente. Ouais. Ça doit
être au-delà de leurs attentes, c'est évident.
C'est clair. Nouvelle intéressante, on va parler de Mazda justement parce que sans que Mazda l'ait confirmé, on peut affirmer aujourd'hui que la Mazda 3 2021 et le CX-30 aussi seront offerts avec un moteur turbo.
Oui, exactement. Donc, c'était une information qui a été divulguée aux concessionnaires américains, une espèce de catalogue qui leur était acheminé. Et là-dedans, il était question d'un moteur turbo pour la Mazda 3. Moteur turbo qui serait jumelé seulement avec des versions à 4 roues motrices. Donc, ce qui en fait une configuration assez intéressante. Et berline autant que haillon. Et comme la Mazda 3 et le CX-30,
C'est la même affaire
avec juste une coquille qui est un peu différente. On devrait l'avoir aussi pour le CX-30. Il n'y a pas eu de confirmation de la part du manufacturier, mais ça s'enligne assez sérieusement pour
c'est-à-dire,
ça.
C'est-à-dire, il n'y a pas eu de confirmation de la part du manufacturier, mais pour avoir parlé à des gens de chez Mazda, on m'a confirmé qu'il y avait des changements de prévus pour 2021, autant pour la Mazda 3 que le CX-30.
Ouais.
Et des changements logiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de diesel qui va arriver là. On s'entend. Puis je veux dire, tout est 100% logique là-dedans parce que on veut, avec la Mazda 3 Turbo, par exemple, aller rivaliser avec une GTI, avec les Hyundai Elantra GT N-Line, avec la Forte 5, avec toutes ces voitures-là qui offrent plus de 200 chevaux de puissance. Puis la Mazda va le faire efficacement. Ça risque d'être assez le fun, d'ailleurs, à conduire. Là, on va commencer à parler d'une voiture dont le rapport poids-puissance est intéressant chez Mazda.
Et en plus, on va avoir 4 roues motrices.
En plus, on va avoir 4 roues motrices, mais seulement avec la boîte automatique.
Ouais.
Donc, c'est essentiellement le groupe motopropulseur qu'on retrouve dans le CX-9, le CX-5, Mazda, c'est pas compliqué. Là. On roule avec trois mécaniques.
Oui, oui.
Parce qu'il faut aussi mentionner qu'on a retiré pour 2020, et ça, c'est un gag monumental, le diesel du CX-5 qu'on a amené au compte-gouttes en 2019.
On le retire, mais est-ce qu'on l'a déjà réellement amené en théorie et pour exemplaires?
On l'a
oui.
officiellement amené parce que pour avoir fouillé sur Internet récemment, il y a plusieurs Mazda CX-5 diesel qui sont présentement à vendre chez les concessionnaires.
Plusieurs,
parce que personne
ouais, c'est
en
ça. Mais plusieurs étant...
J'en ai vu 4-5, ce qui doit représenter au Québec 30 % de ce qu'on a offert ici. Ouais. Je veux dire, si on en a vendu une centaine au Canada, c'est beau, là. Bon, les ouais. CX-5 diesel, ça avait plus sa place. On s'est obstiné chez Mazda à l'offrir quand même. Ça a été un fiasco. Et là, ben regarde, 2020, on n'en a même pas produit. Et il y a peut-être une question d'homologation aussi qui rentre en ligne
c'est
de
possible,
compte.
C'est
Mais
possible, c'est possible.
Oubliez ça, c'est disparu, c'est fini. Et pas besoin de te dire que Mazda n'a pas écrit de gros communiqués à ce sujet-là.
Non, on est resté assez discret. Donc voilà pour la Mazda 3 et son moteur turbo pour 2021.
Tu voulais me parler de James Bond?
Oui, je sais pas si t'es un fan de James Bond. Moi,
absolument.
Moi, je suis plus de la génération Pierce Brosnan en raison de mon absence.
Répète-moi son nom, s'il te plaît.
Pierce Brosnan.
Brosnan?
Brosnan.
Bon, alors Germain, je t'invite à googler son nom pour le dire comme il faut. C'est pas grave. Mais
Brosnan, non?
Écoute.
Non, j'ai un doute, là. Okay.
Alors, envoyez-nous vos photos, vos print screens. Germain a besoin okay. d'écho.
Bon, ça va ressembler à ça. Mais tout ça pour dire que Aston Martin va reprendre la production de la DB5, donc de la version comme on pouvait voir dans le film Goldfinger.
Ouais.
Et avec là, certains accessoires. Et bon, malheureusement, ce ne sera pas immatriculable sur la rue pour des raisons évidentes, en raison des accessoires, justement. Et on va en faire 25, si ma mémoire est bonne.
Donc, ils ne mettront pas de mécanique AMG dedans, là.
Non.
Merci.
Non.
Et, parce qu'il faut souligner que les récentes Aston Martin utilisent des moteurs Mercedes-Benz. Et ça, je trouve que c'est, même si technologiquement,
ouais,
c'est
correct, avancé, là.
Ça s'appelle dépersonnaliser une voiture anglaise.
Voilà. Donc, on reprend la production. Évidemment, elles vont toutes être argentées. Et tiens-toi bien, hein, parce que c'est pas donné. Parce qu'on aura deviné que la demande est forte, parce que des fans de James Bond et des fans d'anciennes Aston Martin, il y en a beaucoup. On parle de 4,6 millions de dollars. Voilà.
Ça fait combien, ça, par mois?
Je sais pas. Bonne okay. question. Et on parlait pas de location non plus. Je sais pas.
Non,
je sais pas pourquoi.
C'est ça.
Je sais pas
okay.
pourquoi.
Donc, on sait que Jean-Guy Matters est décédé il y a
oui.
maintenant quelques années.
Oui, en 2018, alors qu'il avait 89 ans.
Bon, alors Jean-Guy Matters, c'était le propriétaire d'un empire dans la région de Saint-Eustache. Donc,
ben,
le cinéma.
Un homme d'affaires prospère, voilà. Bien connu, assez coloré aussi.
Assez coloré, assez controversé, je dirais même.
Oui. Oui.
Donc là, on a appris que sa collection de voitures personnelles serait vendue à l'encan, mais ce sont des voitures qui représentent très bien le personnage.
Oui, exactement. Donc, c'était des voitures qui étaient exposées dans le hall d'entrée de son spa qui était à Saint-Eustache. Et,
oui, parce qu'il faut mentionner que ça aussi, c'est fermé maintenant.
Oui, exactement. Donc, ouais. c'est suite à cette fermeture-là et le bâtiment, lui, va être détruit. Donc, on a annoncé que les véhicules allait être vendu à l'encan. Et je te les donne en rafale, Antoine. Lincoln Town Car Limousine. Donc, quelque chose de chic. Là. De
quelle année?
87, là, les carrés.
Oui, oui, oui.
Là, les carrés.
Okay.
Et une Rolls-Royce Corniche, une Silver Spur, une Cadillac Alante et une Mercedes 300 CE 92. Et la plus récente, c'est une Ford Thunderbird 2002. Donc, voilà.
Toutes des voitures qui auraient très bien fité avec J.R. Ewing's.
Hein? Si tu le dis, je ne connais pas.
Non, c'est vrai, Germain, tu ne connais pas. J.R. Ewing, c'était évidemment la vedette de la télésérie américaine Dallas dans les années 80.
Oui.
Alors, et d'ailleurs, on avait vu une Cadillac Alante dans cette série-là.
Bon, comme quoi. Hein?
J.R. Ewing avait remplacé sa 560 SL par une Cadillac Alante.
Oui, pas sûr que c'était un bon move, ça.
Bonjour le downgrade.
Et les photos sont toutes sur le site du guide de l'auto. Ça vaut la peine d'aller voir ça. Et vous remarquerez les écussons dorés dans les portes des véhicules qui étaient un peu là, la marque de commerce du coloré personnage.
Bon, alors, le circuit électrique qui doit être sur pause un peu de ce temps-là. Hein?
Oui. Il n'y a pas grand-chose à dire. Tout simplement qu'il y a une nouvelle application pour le circuit électrique. Donc, on sait que c'est une application qui permet de retracer là, les différentes bornes du circuit et de voir si elles sont utilisées ou non.
Ouais.
Bon, et on a fait là, une refonte complète de l'application. Donc, vous pouvez aller jeter un œil. Surtout si vous avez un véhicule électrique. Sinon,
ouais, ça serait pratique.
Si vous avez
acheté un Silverado, ça ne sert pas à grand-chose.
Non, voilà.
Ça ne sert pas à grand-chose. Et,
si vous avez acheté un Silverado, téléchargez Cube Radio.
Voilà, exactement. Maintenant, véhicule de la semaine, tu nous parles du Kia Sorento qui n'a pas changé.
Qui n'a pas changé, mais c'est le modèle 2020. Je n'ai pas une tonne de choses à dire sur ce véhicule-là. J'en parlais ce matin même avec un ami qui était curieux de connaître mes impressions. Je dis, c'est ordinaire partout. Donc, ça fait rien d'exceptionnellement bien, mais ça fait rien de mal non plus.
Moi, là, c'est pareil, juste... Moi, je me permets de dire, et j'ai le même rapport en ce qui concerne le Hyundai Santa Fe.
Oui.
Je m'installe à bord de ce véhicule-là, je le regarde, c'est bien dessiné, c'est élégant, l'ergonomie, elle est parfaite, l'équipement est là, le véhicule est bien garanti. Dans le cas du Sorento avec un 6 cylindres, c'est très bien motorisé.
Oui.
Mais on dirait qu'il n'y a aucune personnalité à ce véhicule.
Exactement.
J'ai rien à dire.
Ouais.
Ça ne m'attire pas parce qu'il n'y a pas... Tu ne peux pas y trouver une qualité particulière ou un défaut particulier.
Il n'y a rien qui fait qu'il se démarque en bien ou en mal d'un autre. Donc,
mais c'est un produit 100% rationnel.
Tout à fait.
Et dans le cas de la version que tu conduis, quand même assez luxueux.
Oui, c'est une version SX.
Ouais.
Et on est au-dessus de 50 000 $ là, mais c'est un véhicule qui part à 30 000. Depuis un an ou deux, si je ne me trompe pas, il est livré avec le rouage intégral parce que c'est populaire là, d'offrir une version de base qui va être moins chère, mais avec des roues très avant, dans ce segment-là.
Ce qu'on fait chez Hyundai avec le Santa Fe, on ne le fait pas du côté de chez Kia.
Je préfère la stratégie de Kia.
Qui conserve aussi un moteur V6 dans ce véhicule-là, alors que chez Hyundai, on n'a plus de V6.
Puis c'est ça, c'est V6 3.3 litres, ça fait l'affaire. Je prendrais ça bien avant le moteur 2.4, qui est le moteur de base. Mais sinon, comme tu as dit, à l'intérieur, c'est beau, c'est ergonomique, l'écran est facile, mais c'est rien pour te renverser non plus.
C'est quand même...
C'est un excellent moyen de transport.
Voilà. Alors, ça vient rivaliser, par exemple, avec les Ford Edge, les Nissan Murano, mais en offrant l'avantage d'une option de troisième rangée avant de tomber dans un véhicule plus gros comme le Telluride.
Tout à fait. Et j'ai peut-être pas fait suffisamment de recherches pour les acteurs qui ont incarné le personnage de James Bond, mais j'ai fait un peu de recherche sur le Sorento.
Ah bon?
Et au Salon de l'Auto de Los Angeles, en 2017 ou 2018, on avait présenté chez Kia une version diesel. En fait, on nous avait dit qu'on allait arriver avec une version diesel.
Ouais.
Et ça s'est arrêté là.
Ben, ça s'est arrêté
là. Et il y a eu des rumeurs de version hybride aussi.
Ben, écoute,
et tout ça s'est arrêté là.
Moi, je peux te mentionner avoir conduit la version diesel de ce véhicule-là il y a maintenant 4 ou 5 ans, alors que le véhicule arrivait sur le marché. Et imagine-toi que j'avais conduit ça dans la région de Francfort, de l'Autriche jusqu'à Francfort, sur l'autoroute.
Okay.
C'était pas un moteur diesel particulièrement impressionnant au niveau des performances. Et je peux te dire que pour l'avoir conduit sur l'autobahn,
t'étais en voie de droite. Hein?
Quand t'es sur l'autobahn, t'as envie d'avoir un peu de puissance et c'était pas tout à fait ça. Mais on avait l'intention chez Kia d'amener ce moteur diesel-là et on a décidé de changer d'avis. Bon, est arrivé le scandale TDI de Volkswagen, le Dieselgate, et je pense que ça a mis le clou dans le cercueil.
Oui, on s'est dit un bon 4 cylindres atmosphériques, un bon 6 cylindres atmosphériques.
Mais c'est un produit qu'on avait fortement évalué et puis on a pris la bonne décision.
Oui.
Parce que
mais ça n'avait pas été trop publicisé. Là,
Non, c'est ça. On avait amené, on était une demi-douzaine de journalistes du côté de l'Europe pour essayer ça. Et puis voilà, ça s'est vraiment arrêté là. Et là, tu parles de diesel. Ben moi, ouais. Je conduis un véhicule diesel cette semaine, pas n'importe lequel. Le Ram Rebel 1500 Eco-Diesel et en version quad cab, pas en version 4 portes. Moi, je suis un fan des camionnettes à cabine allongée.
Oui.
Pas des cabines. Le nouveau Ram,
oui.
Bon, évidemment, se vend beaucoup plus en version cabine double, mais je trouve que les portières arrière qui sont plus longues que celles de l'avant,
Combien de gens achètent un Ram 1500 comme véhicule familial?
Oui, c'est correct. Mais personnellement.
Sur le plan du look, c'est moins beau. Là.
C'est ça. Personnellement, pour le look, pour le côté pratique d'avoir une caisse plus longue sans avoir une limousine à conduire,
ouais.
Je préfère avoir une cabine allongée comme celle qu'on m'a proposée cette semaine en essai. Écoute le prix de ce camion-là. C'est un Ram Rebel, donc pas Laramie Limited, là. On est à 78 000 $ avec le moteur diesel. Il est fardé d'options. Haillon qui s'ouvre en deux parties, les marchepieds, le système, tout ce que tu voudras est dessus. C'est un camion extraordinaire. Maintenant, le moteur diesel, ce que je constate jusqu'à maintenant, pour avoir essayé le Ford, pour avoir essayé le GM avec le Duramax, c'est un moteur qui me semble un peu plus bruyant que ce qu'on a chez GM. On affiche 480 livres-pieds de couple, donc le couple le plus généreux. Ouais. Mais
j'avais été au lancement, moi, l'année dernière de ce modèle-là, et ça m'avait frappé, le couple. Là.
Le couple est impressionnant, mais j'ai préféré le couple instantané du 6 cylindres en ligne de GM.
Okay.
Même si la puissance est pas aussi forte. Le rendement du GM m'a vraiment impressionné. J'aimerais ça les essayer un à la suite de l'autre pour vraiment comparer. J'avais beaucoup aimé le moteur Ford, en fait, qu'on utilise aussi chez Land Rover, le 3 litres Power Stroke.
Il n'est juste pas badgé de la même manière.
Il est pas, non, c'est ça. Et c'est un moteur qui est offert dans des gammes quand même assez coûteuses du côté de chez Ford. Le prix d'entrée pour un Ram, pour un F-150 diesel est plus bas que chez la compétition sur papier, mais rapidement, l'option du diesel devient très chère en montant avec les versions. Alors, choisir le diesel dans le RAM, c'est une option intéressante. Le problème, c'est qu'on a un historique de fiabilité qui n'est très reluisant. Alors, est-ce qu'on a réussi à régler les problèmes de fiabilité de l'éco-diesel? Il faut se rappeler qu'on avait mis un rappel massif sur l'ancienne génération. Et tu te souviens, quel était ce rappel?
C'était l'urée qui gelait?
Bien, on a eu un problème de température au niveau du moteur. Et la façon de régler ça, c'était de mettre un filet sur la grille de calandre. Alors, si vous croisez un Ram avec une belle grille de calandre chromée, mais cachée par un filet noir qui permet de réchauffer le moteur plus efficacement...
Comme un vieil autobus scolaire qui a un carton en avant.
Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Alors, c'était la facette.
Si je m'achetais un camion à 78 000 $ et qu'on me proposait ça, je suis pas sûr que je serais de bonne humeur.
Ben c'est ça. Alors, il faut quand même mentionner que le Ram 1500 de nouvelle génération, c'est quand même un camion qui n'est pas donné. Il y a un gros écart de prix entre cette génération-là et le modèle qu'on vend actuellement comme le Ram classique.
Ben c'est pour ça qu'on continue de l'offrir, d'ailleurs. Parce que c'est pas tout le monde qui a les moyens, là.
Ben puis c'est pas tout le monde qui veut mettre ce montant-là. Et le Ram classique demeure un camion efficace qu'on est capable de vendre aujourd'hui au prix d'un camion intermédiaire chez GM, chez Ford. Alors, c'est pour ça qu'on vend autant de Ram classique, parce qu'il faut savoir que les chiffres de vente de Ram, oui, sont impressionnants, mais je serais curieux de savoir quel est le ratio...
Connaître la proportion.
De l'ancienne et la nouvelle génération.
Surtout au Québec, où il se vend moins de versions haut de gamme en général, là, probablement que la version...
C'est-à-dire que... Oui, c'est ça. Il veut dire, il se vend... Des pick-up, ça se vend de toute façon. Alors, qu'importe, là, ils vont finir par les vendre, c'est pas un problème. Mais je suis pas sûr qu'on va étirer cette génération du Ram-là encore très, très, très longtemps. Est-ce que Ram pourrait ramener le Dakota? On l'avait déjà mentionné.
Des rumeurs sérieuses à cet effet-là, mais voilà.
Fait que j'ai beaucoup aimé le Ram Eco-Diesel. J'ai consommé un peu plus qu'avec le GM, mais en même temps, à sa défense, je n'ai pas fait la même utilisation.
Okay.
Donc, c'est difficile pour moi de dire lequel des deux consomme le plus. Mais je serais attiré davantage par le moteur diesel GM que celui du Ram pour le couple du six-cylindres en ligne, mais aussi parce que l'historique de fiabilité m'inquiète un peu. Je vais le laisser vieillir. Voilà. Fait qu'au retour, on parle avec Pascal Lapierre de Kia Canada.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Antoine Joubert, Germain Goyer, des vrais gars de char, le guide de l'auto.
Germain, invité de la semaine, Pascal Lapierre, qui est directeur régional pour Kia Canada, parce que Kia est le constructeur au Québec qui s'est le mieux défendu au mois de mai.
Qui a fait le moins pire, finalement.
Qui a fait le moins pire, certain. Seulement 8 % de baisse de vente par rapport à l'année passée, ce qui est tout un exploit. Bonjour, Pascal.
Bienvenue parmi nous.
Bonjour, merci de l'invitation.
Évidemment, là, on a des chiffres devant nous de tous les constructeurs automobiles et puis Kia s'est sérieusement démarqué au Québec, peut-être un peu moins au Canada, mais sérieusement démarqué au Québec avec les ventes en mai, avec une diminution de seulement 8 % par rapport à l'année passée, alors que vous étiez déjà en ascension. En 2016, 17, 18, on avait baissé au niveau des ventes chez Kia. Ça allait un petit peu moins bien. Mais l'année passée, on recommençait à prendre... les ventes commençaient à remonter, gagner des parts de marché. Et là, c'est seulement 8 % par rapport à l'année passée. Qu'est-ce que vous avez fait pour que ce soit si impressionnant que ça? Parce que, pour donner une idée aux auditeurs, Mazda a baissé d'à peu près 40 % la plupart des constructeurs automobiles...
Nissan est à moins 64.
Ouais, Nissan étant les pires, on est à moins 64 %. Mais il y a beaucoup de constructeurs qui se situent dans le 30, 35, 40 % actuellement et Kia, c'est seulement 8. Alors, c'est quand même impressionnant.
Oui, effectivement. Écoute, un peu comme tu l'as mentionné, Antoine, d'entrée de jeu, c'est un peu la suite, si on veut, d'une belle progression qu'on avait commencé à avoir en 2019. Au niveau des ventes, donc on était en 2019 le manufacturier avec la plus forte croissance, donc très, très heureux de ces performances-là. Et je pense que, mais dans le fond, c'est un peu la suite des choses, malgré le fait qu'on ait vécu là une pandémie. Donc, il y a plusieurs éléments, je dirais, là, d'entrée de jeu concernant cette performance-là. Un des facteurs, si on veut, c'est entre autres la très, très bonne communication et la transparence entre la maison mère à Toronto et tout notre réseau de concessionnaires. Donc ça, c'est un des facteurs qui a contribué un peu à la performance.
Quand tu parles de transparence, tu veux dire quoi, par exemple? Tu parles de gestion des inventaires, tu parles de...
Non, mais c'est au niveau, justement, tous les gestes qu'on a pu poser, exemple, durant la pandémie. Un des premiers qu'on a fait, dans le fond, c'était de répondre un petit peu aux gens là qui avaient des besoins au niveau d'un soutien financier pour les gens qui possédaient déjà une Kia. Et ensuite, on a même également extensionné la garantie, sachant que nos concessionnaires étaient fermés au début de la pandémie. Donc, c'est toutes les choses qu'on a mis en place. Et systématiquement, on avait une communication vidéo à toutes les semaines avec notre réseau de concessionnaires pour un peu les informer des actions qu'on prenait pour être sûr qu'on avait le bon pouls du marché puis qu'on répondait bien aux demandes des consommateurs québécois.
J'imagine que la promotion là qui était en vigueur une bonne partie du mois de mai qui comprenait entre autres là, le financement sur 84 mois à 0 % et un congé de paiement pour 6 mois, ça a pas fait de tort non plus.
Absolument. Donc ça a été un autre des facettes, le fait d'avoir un offre lorsque le marché était prêt, d'avoir un offre de 6 mois, et c'est pas un report de paiement, c'était vraiment, et d'ailleurs la promotion est toujours en vigueur jusqu'au 30 juin, donc c'est pas un report de paiement, c'est vraiment Kia paye les 6 premiers mois de votre financement.
Et le 0 % est applicable sur tous les modèles ou presque?
Presque tous les modèles. Effectivement, on a du 0 % jusqu'à 84 mois. C'est vraiment la promotion la plus, je vous dirais, la plus grosse promotion de toute l'histoire de Kia.
Bien, même actuellement, ailleurs sur le marché, on a vu beaucoup de reports de paiement, mais là, six mois de congé de paiement, 6 mois payés par le manufacturier, ça fait toute une différence. Par rapport au reste du Canada, parce que là, le 8 %, ça touche seulement le Québec, mais par rapport aux autres provinces, la baisse est de quel ordre, disons?
On est le numéro un que, au niveau du Canada à travers tous les manufacturiers. La baisse pour le mois de mai, chez Kia, a été de 25%. Pendant ce temps-là, l'industrie est aux alentours là, de 42 à 48% de baisse par rapport à l'année dernière.
Mais au Québec, c'est seulement 8%. Puis ça m'amène peut-être à la prochaine question parce que je suis curieux d'abord de voir comment les concessionnaires québécois se sont démarqués de ceux du reste du Canada pour arriver à un chiffre aussi impressionnant. Et je dirais en deuxième partie, pourquoi est-ce que Kia est si fort au Québec par rapport au reste du Canada où il y a des endroits où Kia se vend presque pas? Là, je pense en Alberta, Kia, c'est une voiture mystérieuse. On n'en voit presque pas. Là. C'est une blague, là, mais évidemment, c'est pas une marque. Là-bas, c'est les Américains qui vendent beaucoup. Mais chez nous, Kia est très, très, très populaire. On voit des concessionnaires neufs se bâtir à grands frais avec un nouveau programme d'image. C'est une marque qui est en pleine ascension. Mais je pense que les concessionnaires se sont démarqués aussi en faisant des actions qui leur sont propres là, au Québec. Là.
Effectivement, Antoine, nos concessionnaires, c'est des gens très passionnés chez Kia en particulier et des gens également très proactifs. Donc, ils ont trouvé des moyens très créatifs et innovants là, de venir soutenir nos clients pendant cette période. Fait qu'ils sont tout simplement pas restés assis à attendre que les choses se passent. Certains de nos concessionnaires ont approché d'une façon très rapide et radicale, je dirais, tout le digital, la façon de faire des demandes Internet, si on veut, et de répondre systématiquement à leur clientèle via soit les courriels, soit des vidéos, téléphone, étant donné que les concessions étaient fermées. Et on voulait quand même là, donner du service là, à notre clientèle présente et à nos futurs clients.
Évidemment, ça a bien fonctionné. Est-ce que aujourd'hui, alors que la vie normale commence à reprendre son cours, est-ce que vous avez l'impression que ce sont des habitudes développées récemment qui vont demeurer?
Oui, c'est sûr qu'il y a une partie qu'on va sûrement garder. Il est peut-être un peu tôt, honnêtement. Ça fait seulement une semaine, un petit peu plus, une dizaine de jours que nos concessionnaires de la grande région métropolitaine, que leurs salles de montre sont ouvertes.
Ouais.
Donc, c'est quand même, on est encore dans la période du COVID, là, comme le disait le premier ministre, là, c'est pas passé, c'est pas fini. Alors, on va continuer d'évaluer ça, de s'adapter. Et on a toujours été comme manufacturier chez Kia à l'écoute de nos consommateurs. Puis on se veut être un manufacturier innovant. Donc, c'est cette tendance-là qu'on va continuer à prendre pour les prochaines semaines et les prochains mois.
Justement, la crise n'est pas terminée. Des fois, on dit qu'on est mieux de se préparer au pire. Est-ce qu'on on a un plan si jamais il y avait une deuxième fermeture des concessionnaires? Je sais qu'on est rendu là dans la spéculation, mais c'est arrivé une fois. Ça se jase d'une deuxième vague. Donc, est-ce qu'on est prêt à faire face à ça chez Kia?
Honnêtement, on regarde ça au jour le jour. Là. C'est sûr que c'est spéculatif, là, comme vous l'avez mentionné. Donc, on n'a pas nécessairement de plan d'écrit ou de plan d'attaque. On est convaincu, par contre, qu'on a très bien traversé la crise actuelle et on va poursuivre dans ce sens-là, à continuer de s'adapter. C'est quelque chose qui est très évolutif et qui bouge là, beaucoup de jour en jour, un petit peu moins dernièrement parce que, bon, on semble avoir la situation plus sous contrôle là, du côté de la santé publique. Mais on suit ça attentivement, quotidiennement, avec tous les rapports et les chiffres qu'on a. Et on va être prêts là, à faire face à la musique là, éventuelle, là, selon le contexte qui va se produire.
Aujourd'hui, on constate qu'il y a plusieurs manufacturiers qui font face à divers problèmes de gestion d'inventaire, que ce soit au niveau des concessionnaires, que ce soit au niveau du port où les véhicules sont stationnés ou sont pris littéralement là-bas, que ce soit au niveau de la production également. Comment est-ce qu'on se défend du côté de chez Kia au niveau de la gestion des inventaires? Est-ce que les concessionnaires ont encore des cours assez pleines? Est-ce qu'on va être capable de suffire à la demande dans les prochains mois? Bon, puis là, évidemment, je ne mentionne pas un modèle en particulier, mais je parle de l'ensemble de la gamme. Est-ce qu'on est capable de satisfaire une majorité de clientèle qui veulent s'acheter un véhicule actuellement?
Absolument. Alors, chez Kia, je vous dirais honnêtement, on est dans une situation pratiquement idéale. La haute direction avait pris des initiatives là au niveau du lorsqu'il est survenu la crise. Donc, il y a certaines usines qui ont été ralenties tout simplement la production.
Ouais.
Et ce que ça l'a permis de faire aujourd'hui, c'est qu'on a le bon inventaire pour les ventes. On a des super bonnes ventes, telles que vous l'avez mentionné là, au mois de mai. On prétend qu'on va poursuivre là dans cette veine-là. Et là, les véhicules recommencent à rentrer. Donc, on est ligne, je vous dirais, au niveau de l'inventaire. Et on est vraiment en situation comme optimale, honnêtement. Donc, on n'a pas trop, on a juste assez, on n'en manque pas. Donc, on a honnêtement des très, très bonnes décisions qui ont été prises au niveau de l'exécutif pour avoir justement un genre d'inventaire là, approprié pour les conditions.
Une situation optimale. Ouais. Voilà. Tout est dans tout. Tout est dans tout.
Ça, c'était la note de Germain. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a, là. Mais...
Oh, qu'est-ce qu'il y a? Voilà.
Là, c'est pas pire. Mais là, ce qu'on constate aussi, c'est que, bien sûr, avec tout ce qui se passe en ce moment, le marché de l'automobile est appelé à changer. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on manque de pick-up pleine grandeur sur le marché.
C'est pas un problème pour Kia.
C'est pas un problème pour Kia.
Non, on n'est pas dans ce marché-là.
On n'est pas dans ce marché-là. Mais évidemment, il risque d'y avoir aussi beaucoup de gens qui n'avaient pas nécessairement l'intention de s'acheter un véhicule parce qu'on utilisait le transport en commun, par exemple, qui vont peut-être décider de se tourner vers un petit véhicule ou des gens qui avaient des véhicules un peu plus luxueux, comme un Sorento bien équipé, qui vont... avec ce qui s'est passé, peut-être passer à quelque chose de plus rationnel, de plus raisonnable comme produit, ce qui fait que le marché de la petite voiture et du petit VUS pourrait gagner des parts de marché, alors que la tendance était à l'inverse il n'y a pas longtemps. Comment est-ce que Kia voit ce marché-là et est-ce qu'on a un plan stratégique, pas seulement pour les VUS, mais aussi pour les petites voitures? Puis je m'excuse d'étirer ma question, mais je veux entendre parler de la Rio là-dedans. Parce que, un peu comme chez Hyundai, à chaque fois qu'un client rentre pour une Rio dans un concessionnaire, on essaie de lui vendre une Soul, on essaie de lui vendre une Forte, on essaie de lui vendre autre chose. Et ce que ça a comme impact, c'est que les petites voitures perdent en popularité. Mais là, ça pourrait changer.
Oui, non. Bonne question. Honnêtement, on sait tous que le segment là, du sous-compact est un segment en régression, là, et particulièrement au Québec. L'année dernière, là, c'était 19 % en baisse dans ce segment-là.
Ouais.
Et on a toujours une bonne part de marché. On tourne autour de 10-11 % là, avec notre Rio. Et, non,
mais ce qui n'est pas une très bonne part de marché, si je peux me permettre. Parce
qu'il y a de moins en moins de joueurs. Là, il reste qui? Là, plus grand monde. Là.
La Micra prenait beaucoup de place, elle disparaît. Bon, Yaris, on ne sait pas ce qui va se passer avec ça, mais c'est un nouveau modèle, puis on sait que ce n'est pas une Toyota. L'Accent se vend beaucoup moins. Donc, c'est un marché qui est difficile. Moi, j'ai l'impression, personnellement, qu'il y a une opportunité pour des constructeurs comme Kia qui ont encore un produit intéressant à offrir là-dedans. Là.
Tout à fait. Donc, mais pour nous, on est satisfait honnêtement qu'une part de 10 % là, des parts de marché, on est très satisfait. C'est la part de marché qu'on a à peu près dans les segments compétitifs.
Okay.
Et pour nous, le Rio représente une belle opportunité. On a ce véhicule-là. Et ce qui est important comme marque chez Kia, c'est d'avoir des véhicules dans l'ensemble des segments et pour bien répondre aux
besoins. Sauf dans les pick-up.
Sauf les pick-up, effectivement. On n'est pas dans ce marché-là. Mais tous les autres gros marchés, que ce soit maintenant le compact SUV, les compacts ou les sous-compacts SUV, on est systématiquement dans à peu près tous les segments. Et pour nous, c'est important d'avoir une représentation pour justement venir combler les besoins là, de nos clients québécois.
Mais cependant, si un client entre chez Kia pour s'acheter une Rio parce qu'il est intéressé à un produit comme celui-là, est-ce que vous considérez ça plus intéressant de l'upseller, je m'excuse le terme, mais de l'upseller sur un véhicule plus gros, ou est-ce qu'on a aussi la volonté de vendre des petites voitures?
Non, on a absolument la volonté. Si on est très, je vous dirais, à l'écoute de nos clients, si un client rentre en salle de monte et que pour lui, le Rio correspond à ses besoins, en tant que manufacturier, on est très, très content de lui vendre un Rio. C'est un véhicule qui est dans ce segment-là. Puis je l'ai mentionné, on sait que c'est un segment qui est en baisse au Québec, mais on est très content là, de lui vendre un Rio. C'est le Rio qui correspond aux besoins tout simplement du client.
On est très content d'y vendre un Rio parce qu'on sait qu'on va y vendre un Sportage dans 4 ans. Est-ce que dans la même veine, on est d'autant plus content d'avoir fait la décision au Canada d'avoir gardé la Forte à Hayon, la Forte 5, considérant que peut-être certaines personnes vont faire un choix plus économique et plus pratique finalement?
Oui, dans le fond, on a ce véhicule-là dans le marché tout simplement parfois pour répondre à la demande un peu de nos clients. On regarde ça aller et c'est sûr que c'est un véhicule à moindre volume, dans le sens que c'est une niche un petit peu plus spécialisée. Le fait que ce soit un Forte 5, une allure un peu plus sportive et avec des performances un petit peu plus sportives également. Mais on est très, très satisfait de la performance de notre Forte 5 depuis son lancement l'année dernière.
Bon, là, je pense qu'on n'a pas le choix de parler de la nouvelle coqueluche de Kia qu'on voit partout sur les panneaux publicitaires. C'est le Seltos. Donc, un nouveau VUS compact, pour ne pas dire urbain, parce que on est loin d'un camion, là, on parle d'un véhicule compact carrément. C'est la nouvelle coqueluche, il y a de la gueule, c'est bien marketé, c'est un véhicule qui risque de connaître du succès, comme le Kona connaît du succès chez Hyundai. Est-ce qu'on est capable de suffire à la demande? Et est-ce qu'il n'y a pas un danger avec ce véhicule-là de peut-être justement perdre des clients au niveau de la Forte et de la Soul? Parce que là, dans cette même gamme de prix-là, se trouvent carrément 3 véhicules.
Oui, absolument. C'est notre dernier venu dans la famille, là, le Seltos, effectivement.
Le venu, c'est dans l'autre famille. Ouais,
le venu, c'est chez Kia, ça.
Chez Hyundai.
C'est Hyundai, oui, c'est ça.
Donc, effectivement, qui rentre dans la catégorie là des sous-compacts VUS, qui est la catégorie là, avec la plus forte croissance, et particulièrement au Québec, là avec 34% de hausse l'année dernière. Donc, on est très heureux de la venue de ce véhicule-là dans la gamme, de ce nouveau petit joueur, si on veut, dans la famille Kia. Donc, pour le moment, on est très content. C'est le véhicule, au mois de mai, justement, on a parlé un petit peu plus tôt des chiffres de mai, c'est le véhicule qui s'est le plus vendu au Québec, dans la famille Kia. Donc,
sans surprise.
Très heureux d'avoir ce véhicule-là dans la gamme. Honnêtement, je pense que c'est un véhicule qui est conçu spécifiquement pour le Québec, là, qui est exactement dans le bon marché.
Ouais.
Qui, encore une fois, va répondre, là, je pense, à une majorité de clients là, potentiels pour nous.
Maintenant, le défi avec un produit comme celui-là, c'est bien sûr de garder une clientèle à la maison, mais c'est aussi d'aller séduire de nouvelles personnes. Parce que de développer un véhicule comme celui-là, il y a des coûts qui sont rattachés à ça. Et si on fait juste garder la même clientèle qui délaisse un Soul pour s'en aller là-dessus, c'est pas nécessairement avantageux pour Kia. Donc, est-ce que vous avez l'impression que ce véhicule-là va permettre de séduire une nouvelle clientèle qui aurait autrement acheté un Honda, un Chevrolet, un autre produit? C'est un peu ça l'objectif de lancer un nouveau produit sur le marché. C'est sûr que l'objectif ultime, c'est de vendre un véhicule, mais si on va pas chercher du nouveau monde en ayant une gamme plus large, l'avantage n'est pas nécessairement là.
Exactement. Donc, on est convaincu qu'en amenant ce produit-là dans le marché canadien, que ça va faire simplement augmenter nos parts de marché et que ça va être des ventes incrémentales à l'ensemble de notre gamme de produits. Donc, on est très, très confiant et très heureux là des performances jusqu'à présent là au niveau du volume de vente.
On sait que la location, c'est loin d'être le point fort de Kia. De quelle manière on travaille pour essayer d'améliorer cette situation-là par rapport à d'autres constructeurs?
Bien, je vous dirais que déjà, on a fait un bon bout de travail en 2019, honnêtement. Et chez Kia, on avait une pénétration de 26,5% de nos transactions étaient des locations, comparativement à l'ensemble de l'industrie au Québec, qui était plus aux alentours de 40.
Okay.
Donc, notre objectif en 2020, c'est d'aller plus dans les 30-35% de pénétration au niveau de la location. Et ce qu'on a entre autres effectué, qui a été fait, auparavant, on travaillait avec des données qui étaient celles de l'Amérique du Nord, donc principalement les États-Unis qui ont un plus fort volume.
Ouais.
Et depuis cette année, en 2020, on travaille tout avec les données au niveau des valeurs résiduelles canadiennes. Donc, ça a augmenté substantiellement nos valeurs résiduelles et ce qui nous permet d'être très, très agressifs là, dans nos offres au niveau de la location maintenant et d'être très, très compétitif dans la majorité de notre gamme de produits.
J'aime ça que vous me parliez des données de vente ou de valeur résiduelle canadienne parce que pour moi, là, il y a une iniquité pour Kia. Puis je m'explique en mentionnant que la valeur de revente, par exemple, d'une Rio au Québec, elle est très élevée. La valeur de revente d'un Sportage au Québec, elle est très élevée. Ce qui n'est pas nécessairement vrai dans le reste du Canada. Mais pourtant, on va établir une valeur résiduelle à l'échelle canadienne. ALG va le faire, Black Book va le faire. Et vous, vous allez vous baser sur des données de ces entreprises-là qui sont basées à Toronto et qui regardent le marché de façon générale, mais peut-être moins de façon locale. Et je comprends que c'est difficile d'établir une valeur résiduelle de façon locale. Puis quand je parle locale, c'est québécoise. Mais en même temps, c'est défavorable pour Kia au Québec d'avoir des valeurs résiduelles qui représentent l'échelle canadienne au complet parce que ça ne reflète pas le marché du Québec. Et c'est peut-être là qu'il y a un problème au niveau de la quantité de véhicules qui sont loués chez vous parce que vous avez un avantage que les autres constructeurs automobiles n'ont pas, c'est-à-dire d'avoir une garantie de base de 5 ans qui permet d'avoir une location qui est garantie tout au long du terme, ce qui n'est pas le cas chez les Japonais. Alors, c'est un autre élément, moi, qui me fait dire que Kia devrait performer davantage au niveau de la location, mais on est un petit peu handicapé en raison de ce qui se passe dans le reste du Canada, puis en raison d'une, je dirais pas d'une impopularité, mais d'une image ou d'une perception qui est peut-être moins forte à l'échelle canadienne qu'elle ne l'est au Québec. Est-ce que ça, vous essayez de travailler à améliorer ça?
Mais ce qui est important de mentionner dans le fait de travailler maintenant avec des chiffres canadiens, c'est que le marché du Québec va représenter là, dans tous les modèles importés, je vous dirais n'importe où, entre 35 et 40 % du marché canadien. Mm-hmm. Donc, déjà, on a une belle représentation. Il y a 40 % des chiffres, si on veut, qui viennent du Québec. Donc, pour nous, ça a un impact positif de prendre seulement les données canadiennes versus les États-Unis.
Ah, ça, c'est clair.
Précédemment.
Ouais.
Et donc, ça, pour nous, c'est un net avantage. Et d'ailleurs, dans le début de l'année 2020, c'est une petite période, on a eu janvier, février, malheureusement, mars, la pandémie est arrivée.
Ouais.
Mais déjà, dans les deux premiers mois de l'année, on voyait une hausse significative de notre volume de location.
OK. OK. Donc, ça c'est positif pour vous. Puis, est-ce que le Québec loue plus de véhicules chez Kia que dans le reste du Canada?
Oui, absolument.
OK. Donc, finalement, la stratégie commence à fonctionner. Parce que c'est
la machine qu'on commence à ouvrir. Là.
La machine commence à ouvrir. Parce qu'il y a des véhicules, bon, évidemment, il y a des segments de véhicules où la location est presque impossible parce que la valeur de revente d'une Optima, par exemple, est très faible.
Ouais.
Mais c'est vrai chez Chevrolet, c'est vrai chez Mazda. Ouais. Ce segment de véhicules-là est difficile à louer parce qu'il n'y a pas de demande. Mais ça a toujours été chez Kia un problème, la valeur résiduelle. Puis là, tranquillement, on est en train d'y remédier. On n'est pas encore au niveau d'Honda puis Toyota, mais on y parvient. Je terminerai peut-être en posant la question suivante. Est-ce que le COVID-19 aura appris quelque chose à Kia au Québec? Et est-ce qu'il y a des stratégies qui, selon vous, vont être appelées, disons, à demeurer au niveau de du marketing, de la commercialisation, de la mise en marché de vos produits ici? Et puis, si j'inclus là-dedans peut-être la présence de votre dernière porte-parole, qui est Mélissa Desormeaux-Poulin, qu'on a vu dans quelques publicités. Est-ce que ça aussi, c'est un avantage pour vous, vous considérez? Est-ce qu'on risque de la voir de plus en plus représenter les produits qu'il y a?
Oui, absolument. Alors, comme on disait tantôt, depuis 2019, on sent là, qu'il y a une espèce de vague là, de performance, d'optimisme. Là, on vend de plus en plus d'auto chez Kia, et particulièrement au Québec.
Ouais.
Un des facteurs, si on veut, ça a été justement d'adopter l'ouverture d'esprit, je dirais, de notre siège social, puis d'adapter les stratégies marketing spécifiquement pour le Québec. Donc, la venue d'une porte-parole comme Mélissa, pour nous, ça a grandement aidé à venir au niveau de l'image de marque et de la popularité de la marque et de dire tout simplement aux gens qu'on a des excellents produits parce que, vous savez sûrement, on a gagné les 5 dernières années là au niveau de la qualité initiale de J.D. Powers. Donc, on est convaincu qu'on a d'excellents produits. Maintenant, il s'agissait juste de le dire à nos consommateurs québécois avec des stratégies marketing orientées d'une façon beaucoup plus québécoise.
Est-ce que c'est difficile Oui, vas-y.
Ben, ça fait partie de la stratégie qu'on a en place. Là, je m'en vais répondre concernant le COVID-19. comme on l'a mentionné là, un petit peu plus tôt dans l'entrevue, on est tôt encore dans le processus, mais c'est sûr qu'on va continuer à regarder ça et s'adapter là, au fur et à mesure que la situation progresse. Et éventuellement, c'est sûr qu'on va faire une espèce de post-mortem, puis on va en sortir des éléments avec lesquels on va pouvoir perdurer et continuer là, à appliquer dans le temps.
J'allais te demander, Pascal, est-ce que c'est difficile de vendre l'idée d'avoir un porte-parole pour le Québec? On sait que d'autres manufacturiers le font et des personnalités publiques qui sont associées à des marques depuis très, très, très longtemps. Mais est-ce que c'est difficile de vendre cette idée-là à des dirigeants qui sont peut-être pas familiers avec ça ou qui, de leur bureau en banlieue de Toronto, ne voient pas la pertinence d'investir là-dedans?
Mais je pense que c'est ça qui est intéressant, honnêtement, c'est qu'il y a dans les 2-3 dernières années beaucoup plus de communication entre les régions et le siège social, beaucoup plus de rencontres et de transparence. Et on fait des choses ensemble, on travaille vraiment en partenariat et avec également notre réseau de concessionnaires. Et c'est ça qui fait, je pense, qui crée une espèce de synergie qui nous amène à des super bons résultats là, jusqu'à date.
Bon, ben chose certaine, vous allez avoir réussi à remplacer le Hyundai de Mélissa Desormeaux-Poulin par un produit qu'il y a. Parce que moi, pour avoir écouté la dernière télésérie dans laquelle elle a participé, on la voyait tout le temps au volant d'un Santa Fe. Fait que là, j'imagine qu'elle doit conduire un Sorento. Là, si le cours normal des choses suit.
Si tout le monde a fait ses devoirs, là, c'est ça qui devrait
exactement
se passer.
Merci beaucoup, Pascal, d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Puis en espérant que cette ascension-là demeure pour vous, parce que c'est quand même des chiffres qui sont très impressionnants dans une période qui n'a pas été évidente.
Merci, Pascal.
Non. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée.
Au revoir.
Le guide de l'auto. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer.
Alors qu'on pouvait peut-être imaginer que les concessionnaires allaient être sur le point de donner des véhicules parce que peut-être que plus personne n'en aurait acheté, dans certains secteurs, dans certains segments, c'est-à-dire, c'est la situation inverse qui se passe et il y a des concessionnaires qui craignent de manquer d'inventaire d'ici quelques semaines, voire quelques mois.
Ben, ils craignent pas, ils le savent.
Ils le savent parce que tout est prévu.
En fait, les trois grands constructeurs américains... tant au Canada qu'aux États-Unis, et surtout aux États-Unis, manque de véhicules. Pensez aux camionnettes GM, Ram, F-150 chez Ford. Il y a une pénurie flagrante de ces véhicules-là à prévoir dans les prochaines semaines. Pas plus compliqué que ça.
Qu'on a une idée combien de temps ça pourrait durer ou là, on est rendu trop loin
Il faut comprendre que, par exemple, chez GM, il y a eu... On va manquer de véhicules pour à peu près deux mois et demi. Puis, une fois que les véhicules vont recommencer à rentrer au mois de septembre, ben là, est-ce qu'on va être capable de fournir à la demande? C'est sûr que c'est des modèles 2020 qui vont s'étirer jusqu'en 2021 aussi.
Si on fait juste regarder là, ce qui s'est passé dans les derniers mois, par exemple, pour GM, ben on a eu une grève des employés. Bon. Après ça, on a eu les Autochtones qui ont bloqué les chemins de fer.
Voilà.
Puis après ça, la planète a arrêté de tourner. Bon. Ça fait beaucoup d'embûches, là.
Ça fait beaucoup d'embûches et avant que le COVID-19 ne vienne nous affecter, il y avait déjà un inventaire de camions pleine grandeur qui était assez bas dans le marché. Je parle chez les trois grands. Nissan, on n'a pas problème à avoir des titans dans les cours. Ils sortent pas. Fait que ça règle la question. Mais dans le cas des trois grands, c'est un problème, particulièrement chez GM en raison des problèmes à l'usine. Et là, évidemment, il faut aussi comprendre que les usines ont arrêté de tourner complètement pendant 2 mois. Elles viennent de recommencer à produire, mais à peu près à 25-30% d'efficacité, parce qu'il y a un chiffre sur 3 qui roule. Et là, par exemple, chez GM, on va essayer de lancer un deuxième puis un troisième quart de travail très prochainement. Mais
il y a une question d'approvisionnement même pour les usines, là, parce que les usines ont beau reprendre si elles ont...
Le problème est là.
La chaîne d'approvisionnement est longue là, pour un véhicule.
En plus, mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que au-delà du fait qu'il y a eu 2 mois d'arrêt complet de production, puis que là, on a de la misère à recommencer à repartir la machine, mais pendant ces 2 mois-là, où il n'y a rien qui se produisait, on vendait quand même un peu de véhicules. Entre le 15 mars et le 15 mai, il s'est vendu des camions. pas, évidemment, un volume comparable à ce qui se ferait normalement, mais on peut parler d'à peu près 20 à 30, 35 % de ventes chez les concessionnaires par rapport à l'an passé, ce qui n'est pas zéro. Alors, un concessionnaire qui est habitué de vendre, par exemple, 200 véhicules par mois, ben, s'il en a vendu 60 ou 70, mais c'est toujours bien 60 ou 70 véhicules qui ne sont pas rentrés parce que personne n'en a produit. Donc, et là, on se retrouve...
Mais pour ça, il fallait que le concessionnaire ait déjà là, une structure établie de vente en ligne. Là.
Oui, parce qu'il y en
fallait être prêt à opérer dès la fermeture.
Il y en a qui ont fermé l'achat, tout simplement, qui ont mis la clé dans la porte. Là, mais il y en a d'autres qui se sont retroussés les manches et qui ont continué à vendre des véhicules qui n'avaient peut-être pas anticipé qu'on manquerait de stock à ce point-là.
Mm-hmm.
Puis, il faut aussi considérer que la vente de camions pleine grandeur monte en flèche actuellement. Aux États-Unis comme au Canada, parce qu'il n'y a pas besoin de vous le dire, le prix d'essence à la pompe a un impact direct sur les véhicules qu'on vend.
C'est un très grand facteur.
C'est un très grand facteur. On dit au Canada actuellement que dans la moyenne des concessionnaires, on a à peu près 100 jours ou 80 à 100 jours d'inventaire, autrement dit...
3 mois, là.
Oui, mais en incluant ce qui se trouve au port, etc., etc. Puis il y a des concessionnaires qui n'ont plus rien.
Ça aussi, c'est un autre problème. Moi, je parlais avec un propriétaire de concessionnaire qui me disait que il y a des véhicules qui étaient au port depuis quelques semaines et que ça finissait pas... Ça finit pas par arriver, là. Donc
ça finit pas par arriver. Mais il y a des concessionnaires pour qui c'est pas vrai du tout, là. Dans 2-3 semaines, on n'a plus rien. Il y en a qui n'ont plus rien maintenant.
En plus.
Alors ça, c'est la moyenne que je vous parle. Et aux États-Unis, c'est même pas la moitié de ça. On est à peu près à 45 jours d'inventaire. Alors, pas besoin de te dire qu'on va, on va remplir les cours des concessionnaires américains avant de transférer des camions au Canada. D'une part, parce qu'il y a une urgence plus grave aux États-Unis. Puis deuxièmement, parce que le taux de change est plus favorable de l'autre côté. C'est un peu plus payant de vendre des camions aux États-Unis qu'au Canada.
Juste un peu.
Alors, tout ça, ça fait en sorte qu'on risque de manquer de camions assez longtemps, merci. Et les gens qui pensent qu'on va réaliser des aubaines en allant magasiner des camions maintenant, ben oubliez ça. C'est vrai aussi pour d'autres secteurs, là. C'est vrai pour les VUS compacts, c'est vrai. Bon, je parlais avec des gens d'Audi récemment, je parlais avec des gens de Toyota, les hybrides, on oublie ça, il en manque. Mais il y a d'autres segments comme la voiture électrique, où là, il n'y a rien qui se vend.
En ce moment, comme on l'a dit, l'essence tourne autour $1, là, à peu près, dans la région de Montréal. Puis beaucoup de gens font du télétravail et il est question que ce télétravail-là soit prolongé parce que tu n'as plus besoin de louer des bureaux à gros prix au centre-ville. Bref, donc le calcul d'une voiture électrique est peut-être pas mal moins avantageux pour le consommateur.
C'est ça. Il y a des puristes qui vont continuer de l'acheter, mais là, il n'y a rien qui est intéressant. Parce que même avec un crédit... J'avais calculé rapidement que même avec tous les crédits gouvernementaux que tu voudras, acheter un Hyundai Kona électrique versus en acheter un à essence à équipement équivalent, 2 roues motrices, là, il faut que tu roules 400 000 km avec le modèle à essence avant d'arriver à égalité avec le Kona électrique. Et ça, c'est en considérant que l'électricité coûte rien, ce qui n'est évidemment pas le cas.
Ouais.
Donc, c'est peut-être 500 000 km finalement qu'il faut rouler. Donc, il n'y a pas d'argent à faire à acheter un véhicule électrique en ce moment.
Il faut le faire peut-être par conviction.
Puis d'ailleurs, il y a un concessionnaire GM qui me soulignait que les Bolt actuellement, c'est des ancres à bateau. Ça ne sort pas des cours. On est pris avec ça. Les voitures fusent avec le bitume des cours de concessionnaires actuellement. C'est vraiment un problème. Alors, ceux qui veulent s'acheter une Bolt, là, il y a peut-être des aubaines à faire actuellement. Puis on va probablement être très prudent dans les commandes futures des consommateurs. Puis moi, je ne serais pas surpris non plus que le gouvernement révise peut-être les crédits qu'on applique aux voitures électriques, parce que là, on risque d'avoir besoin de sous. Je ne sais pas pourquoi.
Mais en même temps, on a des promesses qu'on va vouloir atteindre aussi. Le fameux cap là, des 100 000 véhicules, là, c'était...
Mais je pense que c'est plus une question d'actualité en ce moment.
Non, il y a peut-être d'autres priorités qui se sont glissées en avant.
C'est
là.
Ça. Alors, tu sais, là, on vend des camions pleine grandeur comme jamais. Puis en même temps, il y a aussi le contraire qui va arriver, c'est qu'il y a des gens qui n'avaient plus de voiture qui vont probablement s'en racheter une parce que le transport en commun, pour eux, c'est fini. Question de COVID, question d'avoir un environnement contrôlé pour se déplacer.
Ben juste donne un exemple. J'avais l'habitude de me rendre au bureau en transport en commun parce que c'est au centre-ville de Montréal. C'est plus convivial comme ça. Mais avant d'aller m'entasser à nouveau dans un wagon de métro, là, ça va prendre un changement.
Mais là, je t'annonce que tu t'entasserais pas trop parce qu'il n'y a pas grand monde qui le prend.
Mais toujours est-il que le jour où la vie va reprendre là, une certaine normalité, sur la ligne verte, il y avait du monde. Là, puis
c'est ça.
Il y avait du monde sur le quai aussi, puis je te confirme que j'en ai aucune envie.
Non, ça donc, c'est sûr. Alors, il y a ce facteur-là aussi. Donc, on va probablement vendre plus de petits véhicules.
Ouais.
Les gens vont retourner à des Hyundai Accent ou à des petits micro VUS, appelez-les Kicks ou Venue ou appelez ça comme vous voulez, mais des transports un peu plus minimalistes. Alors ça va peut-être gagner en popularité aussi.
Je suis curieux de voir l'effet que ça va avoir aussi sur les véhicules d'occasion, parce qu'il y a peut-être des familles qui avaient un véhicule, par exemple, et que ça va forcer l'achat d'un deuxième véhicule.
Ben, cherche pas plus loin.
Donc, est-ce qu'on va aller chercher là, un véhicule à moins de 10 000 $ là, que
c'est sûr,
économique.
Sauf que là aussi, il va y avoir une pénurie.
Ben oui.
Il va y avoir une pénurie, mais en même temps, lorsque les ventes vont reprendre de plus belle à l'automne, puis qu'on va recommencer à avoir des inventaires de neuf, là, il y a beaucoup de véhicules d'occasion qui vont se retrouver sur le marché. Et probablement plus parce que avec le dollar qui risque de remonter à ce moment-là, il y a moins de véhicules usagés qui vont traverser du côté des États-Unis.
Ça, c'est
à ce moment-là, ça va nous faire des inventaires un peu plus gras.
Mais là, on est rendu loin, puis il y a le temps de se passer bien des affaires.
Bien des affaires
d'ici
avant ce temps-là. Alors, juste vous dire que si vous aviez l'intention de vous acheter un Silverado et d'économiser 20 000 demain matin... Peut-être oublier ça.
Mais si vous voulez un Buick encore 2019, ça, il y a peut-être un peu plus de marge.
Ou si vous voulez un Titan, ben, je pense qu'il y a des concessionnaires Nissan qui vont être heureux de vous le vendre, parce qu'il faut souligner que au mois de mars, comme on le disait tantôt, au mois de mai, 64% de baisse de vente chez Nissan par rapport à l'année passée, c'est gigantesque. Alors voilà, Germain, ça finit comme ça. Bonne semaine. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. On commence à rouler des véhicules un petit peu.
Ouais. La vie reprend, tranquillement.
La vie reprend. Et moi, la semaine prochaine, je vous parlerai d'un classique, la Chrysler 300.
Ah, j'ai déjà hâte.
Pour écouter cette émission, rendez-vous sur cube.radio ou téléchargez notre application sur le Apple Store ou Google Play.